Culture et confiture, une chronique bien tartinée par Manon Seren.
Vous reprendriez bien un peu de culture ? Alors c'est parti, mais avant tout, si vous êtes encore au petit-déj, faites griller les tartines, beurrez et ajoutez votre cuillère de confiture, mais surtout n'étalez pas trop votre culture, c'est parti pour un nouvel épisode de Culture et confiture. La fin de semaine approche, alors je vous propose de revenir sur les différents événements évoqués cette semaine. Lundi, le 15 juin, nous avons débuté la semaine sur des notes de jazz puisque 24 ans plus tôt, la chanteuse américaine Ella Fitzgerald disparaissait en laissant derrière elle une carrière digne des plus grandes de l'histoire du jazz. Ella Fitzgerald est née dans un milieu modeste aux États-Unis dans lequel elle développe déjà très jeune le goût de la musique. Elle commence alors à chanter dans un théâtre new-yorkais et c'est quelques années plus tard, après nombreux castings, auditions et collaborations, que sa carrière en solitaire débute. Propulsée cette fois seule sur le devant de la scène, elle se confronte alors à la discrimination afro-américaine, chose contre laquelle elle se défendra et luttera ensuite toute sa vie. Malgré ses difficultés, Ella Fitzgerald persiste et poursuit sa carrière en se baladant musicalement entre swing, bebop, scat, blues, samba ou encore gospel. Ah, alors vous vous souvenez de ce que c'est le scat ? Il s'agit d'un style musical, celui de chanter sans parole. Vous savez, les célèbres wap wap de wa ou encore bi bi de wa. Alors oui, ça peut paraître simple comme ça, mais en vérité, cela nécessite un grand travail d'improvisation et puis surtout du swing. Et à travers sa carrière longue de 60 ans, Ella Fitzgerald a partagé plus de 70 albums vendus à 40 millions d'exemplaires qui lui auront notamment valu 14 Grammy Awards, dont celui du couronnement d'une carrière décernée aux artistes qui par leur parcours et leur vie ont apporté de grandes richesses et contributions à l'univers de la musique. Si vous aussi vous aimez le jazz et plus particulièrement les soirées jazz, sachez que la métropole lilloise regorge de bars et de restaurants où sont organisés régulièrement des concerts jazz. Ils seront ravis de vous accueillir pour leur réouverture, l'occasion de vous perfectionner vous aussi au scat.
Culture et confiture.
Mardi 16 juin, nous sommes retournés sur les bancs de l'école, puisque c'est à cette date, en 1881, que paraissait la loi Jules Ferry. Un texte grâce auquel tout enfant français obtient le droit, enfin plutôt l'obligation, d'aller à l'école, et ce, de manière gratuite et neutre.
Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école ?
Avant de revenir sur cette fameuse loi Jules Ferry, remontons quelques années plus tôt, en 1833. Cette année-là est publiée la loi Guizot qui promeut une école gratuite pour les familles qui ne peuvent pas payer l'école. Cette loi marque le début de la gratuité à l'école donc, et par la suite, de nombreuses communes françaises décidaient spontanément d'appliquer cette mesure pour tous. Plus tard, le 10 avril 1867, c'est la loi Duruy qui modifiera l'école française en encourageant sa gratuité grâce à un soutien financier de l'État. Sont également mis en place les systèmes de bourses et la caisse des écoles. Et c'est ainsi qu'en 1880, grâce aux différentes lois déjà passées, 2/3 des élèves français peuvent suivre l'école de manière gratuite. Il faudra tout de même attendre le 16 juin 1881, donc, pour que la loi Jules Ferry transforme l'école primaire en une école obligatoire, gratuite et neutre. Un moment fondateur pour le système scolaire français que l'on connaît toujours aujourd'hui. Cette loi améliorera aussi beaucoup la scolarisation des filles et des enfants situés en campagne. De fait, plutôt que de les faire participer aux tâches ménagères ou aux travaux dans les champs, les parents sont désormais obligés de les envoyer à l'école. Dernier point, la laïcité. La loi du 28 mars 1882 supprimera l'intégralité des enseignements religieux à l'école, remplacée par l'instruction morale. Et si le rythme scolaire a été bien perturbé ces derniers temps, la reprise des cours et de l'école obligatoire est prévue dès le 22 juin prochain, et ce pour les enfants de la crèche à la classe de 3e. Alors zou, on retourne faire les cartables.
Culture et confiture.
Le 17 juin, je vous donnais rendez-vous dans l'espace puisque c'est ce jour-là, en 1985, que le français Patrick Baudry décollait à bord de la navette spatiale américaine Discovery, devenant ainsi le 2e astronaute français de l'histoire. C'est parti, attachez vos ceintures, décollage immédiat.
3, 2, unité, top.
À l'heure où la fusée s'apprête à décoller pour la 18e mission de la NASA, la navette spatiale est encore la première fusée récupérable et réutilisable envoyée dans l'espace. Et pour cette première expédition en conditions inédites, le Français Patrick Baudry est sélectionné pour faire partie de l'équipe d'astronautes. Cet ancien pilote de chasse de l'armée de l'air française développe pendant sa carrière dans les airs une certaine fascination pour l'espace, et c'est en 1980 que son destin prend une dimension spatiale. À cette date, le pilote est en effet sélectionné par le Centre National d'Études Spatiales pour intégrer le tout premier groupe de cosmonautes français. Il part alors pour la Cité des Étoiles près de Moscou, où il suivra l'entraînement des cosmonautes soviétiques et sera ensuite qualifié sur plusieurs vaisseaux spatiaux. Plus tard, alors qu'il rejoint le corps des astronautes de la NASA pour préparer le premier vol spatial franco-américain, il est désigné pour prendre part dans la fameuse mission Discovery, une mission dont le départ est donc fixé ce fameux 17 juin 1985 au sein du Kennedy Space Center en Floride. La fusée reviendra sur Terre le 24 juin en Californie, avec à son bord Patrick Baudry, cette fois devenu le deuxième spationaute français, soit le deuxième astronaute de notre pays à être allé dans l'espace après Jean-Loup Chrétien. Et alors que l'on parle cosmonaute et astronaute, sachez que la ville de Lille aussi voit grandir des avenirs prometteurs. C'est notamment le cas de Basile, âgé de 17 ans, ce lycéen de Bondu a construit avec deux de ses amis une fusée. Oui oui, vous avez bien entendu. Et ce n'est pas tout, le jeune garçon a également lancé son propre programme spatial baptisé Orion Space Agency.
Culture et confiture.
Le 18 juin, date célèbre en France, nous avons évidemment parlé de l'appel en 1940 du général de Gaulle. En septembre 1939, la France déclare la guerre à l'Allemagne nazie. Cette dernière contre-attaque quelques mois plus tard et surprend la France sur son territoire. Le front cessera le mois suivant et le 14 juin, les troupes allemandes envahissent Paris. Paul Reynaud, alors président du Conseil des ministres en France, démissionne et le général de Gaulle perd sa place au sein de son gouvernement. Il décide alors de poursuivre le combat et part s'exiler en Angleterre pour rencontrer le premier ministre britannique Winston Churchill, dont il espère obtenir le soutien afin de poursuivre la guerre. De son côté, depuis la France, le maréchal Pétain devient le nouveau chef du gouvernement et annonce qu'il va demander la signature d'un armistice. Cette annonce résonne comme un aveu de défaite, ce qui motivera du côté anglais Winston Churchill et le général de Gaulle à organiser le fameux discours du 18 juin. Alors que dit-il le général de Gaulle ? Eh bien, depuis Londres, il appelle à poursuivre le combat aux côtés des alliés britanniques. Selon lui, la victoire des Allemands lors de la bataille de France qui vient de se terminer ne doit pas être vécue comme la fin de la guerre. Entendu par peu d'auditeurs lors de son émission, le discours du général de Gaulle sera publié dans la presse le lendemain et rediffusé à la radio. D'ailleurs, pour la petite anecdote, ce célèbre discours n'a en vérité pas pu, pour des raisons techniques, être enregistré. Comme vous pouvez le voir, cela n'a pas empêché la diffusion du texte puisque les jours suivants, le général de Gaulle prononcera d'autres discours similaires et c'est ceux-là qui seront enregistrés et que vous pouvez retrouver dans les différents documentaires et reportages sur le sujet. Après ce discours, le maréchal Pétain signe tout de même en France l'armistice le 22 juin avant d'obtenir les pleins pouvoirs. Il met alors fin à la Troisième République et fonde l'État français à Vichy. À ce même moment, le nord et l'ouest de la France sont occupés par les Allemands et le maréchal Pétain use de la collaboration avec l'occupant nazi. De son côté, le général de Gaulle devient chef des forces françaises libres et son appel du 18 juin résonne comme l'élément fondateur de la résistance française. Et puisque l'on parle du général de Gaulle, vous souvenez-vous de l'épisode de Culture et Confiture dans lequel nous avions parlé de son histoire avec notre région ? Puisque c'est à Lille qu'il est né, je vous avais d'ailleurs indiqué qu'il était possible de visiter sa maison natale située rue Princesse. Actuellement, des travaux de rénovation sont toujours en cours, mais rendez-vous pour la réouverture le 20 novembre prochain. Culture et confiture, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se dit à lundi pour un nouvel épisode inédit.
Retrouvez Culture et confiture en podcast sur notre site rpl.radio.